à tous et à toutes et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je suis en compagnie de Dwayne.
Bonjour tout le monde.
Et c'est tout. Voilà, petit comité cette semaine. Au sommaire de l'actualité, nous vous parlerons du Kickstarter de Seven Framed. Nous enchaînerons ensuite sur The Next Penelope, un projet de Aurélien Rogard, un ex-membre d'Arkedo, n'est-ce pas ? Nous évoquerons cette petite marotte hein, qui existe dans le monde du jeu vidéo, à savoir le remake de Final Fantasy VII. Hein. C'est un peu comme Shenmue, tu vois, il y a des gens des fois qui ne savent pas lâcher l'affaire. Cette semaine, un nom de domaine a été enregistré par Square Enix, mais nous reviendrons sur ce sujet tout à l'heure. Enfin, 1886, The Order, Infamous aussi, un trailer, tout ça, bon, on l'évoquera vite fait. Et surtout, la fermeture d'un studio qui nous tenait à cœur, Dwayne.
C'est clair.
Donc, la fermeture d'Irrational Games, c'est un peu le truc qui nous est tombé sur la tête, comme ça on s'y attendait pas du tout, et ça fait un peu mal aux fesses, on va dire. Voilà. Sans oublier, bien sûr, notre jeu du moment... Un jeu que j'avais moi-même financé sur Kickstarter, The Banner Saga. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc, Seven Framed. Alors, Dwayne, qu'est-ce que c'est ce Kickstarter ?
Voilà, donc c'est un Kickstarter lancé par le studio V Games, hein, qui est un studio montréalais. Donc là, ils nous ont balancé le Kickstarter cette semaine avec un trailer de gameplay. Donc c'est vraiment... La seule chose qui nous ont mis, qui est quand même assez conséquent, on a à peu près 3 minutes de gameplay. Donc on est sur le concept, en fait, c'est 7 épisodes avec sur chaque épisode donc un protagoniste. Là sur le premier épisode, donc c'est un serveur, donc on voit qui doit aller donc servir un sénateur ou enfin une personnalité politique en tout cas. Qui se retrouve assassiné par un couteau qui vient de justement où ses empreintes sont présentes tout simplement et donc voilà le concept c'est vraiment le fait que la personne se fasse piéger par une organisation encore inconnue au niveau du donc les points sur lesquels le studio insiste c'est surtout qu'on est sur vraiment quelque chose un triple A avec des graphismes assez oui au niveau des graphismes on est sur quelque chose d'assez joli et surtout au niveau
par
du
contre, un triple A qui demande quel budget
donc là il demande c'est vrai 300 000 $
voilà.
Pour l'instant ils sont en très mauvaise voie vu que là après 8 jours ils sont à 15 000 $ donc moi j'ai on a repéré avec le tyran aussi toi tu m'as dit que t'avais pas du tout aimé de ton côté. Bah déjà toi, qu'est-ce que t'en as pensé du trailer?
Moi j'ai vu le truc déjà. Bon, outre le protagoniste principal qui est tout le temps là, oh my god, oh my god, oh my god. Enfin bref, il y a aussi le fait que tout simplement, moi j'ai pas vu de gameplay en fait. Et le truc c'est que comme on m'avait annoncé un jeu d'action à la base. J'ai trouvé que c'était assez déceptif, hein, honnêtement. Ouais. Alors après, peut-être qu'il y a de l'action, j'en sais rien, sauf qu'il ne le montre pas. Enfin, s'il y a une demi-seconde d'action à un moment donné, encore, on se demande si c'est pas de la cinématique. Donc
ouais,
forcément, moi j'ai vu ça, j'ai fait... Ouais. Déjà le scénario, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans un film. Et aussi, tout simplement que le fait, le gameplay, il m'emballe pas du tout, quoi. C'est tout.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, moi, le problème, lorsque j'ai vu ça, j'allais justement, en plus, lui poser la question, comme j'ai vu qu'il répondait assez facilement, mais des gens l'avaient déjà fait. C'est-à-dire, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on n'a aucune présentation de l'équipe, à savoir qui fait quoi, le nombre à peu près. Et aussi le fait qu'on ne sache pas si on est sur du David Cage justement, sur quelque chose avec sur toute la cinématique et un espèce de film interactif, on va dire, ou si on est vraiment sur un FPS avec du gameplay pur. Donc il y a ces deux problèmes-là. Sur le concept du gameplay, il a répondu qu'il ne voulait pas qu'on lui pique des idées. Donc ok, là ce ne sera pas le cas apparemment, vu que le jeu a pour l'instant... Peu de chance, en tout cas, d'être financé sur Kickstarter, même on avoisine le 0%. Et pour la présentation de l'équipe, donc il disait que pas mal de personnes sont déjà en train de travailler sur chez d'autres studios et qui se concentrait vraiment sur le jeu en lui-même. Donc là, en fait, il fait un peu l'inverse de ce que d'autres font, c'est-à-dire que là, on n'a aucune présentation de l'équipe ou du gameplay, vraiment le fond du gameplay, mais on a une longue séquence. Donc, à voir. Franchement, pour l'instant, pas extrêmement emballé. Moi, il y a quand même l'ambiance qui m'a plu, mais à part ça, on n'a pas plus d'infos, donc c'est un peu embêtant pour un Kickstarter.
Voilà. Bah, surtout que, voilà, enfin... Les mecs, je pense qu'ils ont pas saisi le concept de Kickstarter, quoi. Je veux dire, si tu veux absolument garder toutes tes idées au chaud, mais ne fais pas Kickstarter, parce que Kickstarter, ça implique quoi? Ça implique que tu sois transparent avec ta communauté. Mmh. Et être transparent avec ta communauté, ça veut dire parler de tes idées. Parler de ce que tu vas implémenter. Dévoiler des choses au fur et à mesure du développement. Et ça, ce n'est absolument pas compatible avec la culture du secret, quoi. Je veux dire, tes backers, ils vont forcément en parler sur les forums, etc. Et même, j'ai envie de dire, ça fait partie du concept même de Kickstarter, c'est-à-dire te créer une espèce de fanbase, tu vois, qui va être là pour parler de ton jeu, qui va être là pour faire en quelque sorte sa promotion, tu vois. Donc, forcément, si tu caches des choses aux gens, bon, déjà, ça inspire pas à la confiance, hein. faut être honnête, mais je crois qu'ils ont pas bien saisi le concept même de Kickstarter, quoi. Ils sont un peu à côté de la plaque, je trouve, hein, personnellement. Ça, plus le fait que, bon, pourquoi on dit que c'est mort pour ceux qui ne connaissent pas Kickstarter, c'est que, tout simplement, en général, au bout de 24-48 heures, on sait si un projet a ses chances ou pas.
Le succès entraîne le succès, et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que quand tu vois qu'un projet a quand même déjà dégagé... un certain nombre d'argent, donc tu vas aller automatiquement voir si tu vois qu'il est après une journée à 50% de son objectif, donc tu vas aller voir, tandis que là, si après 8 jours, t'as un truc qui est à 10 000 dollars, tu
vas pas
forcément, voilà, tu vas pas forcément avoir envie d'aller zioter le projet, vu le nombre de Kickstarter qu'il y a.
En gros, t'as un pic au début, un pic à la fin, et au milieu, c'est à peu près constant, mais c'est très bas, quoi.
Donc, après, il faut vraiment faire très fort au début et très fort à la fin. Il y a quelques exceptions, mais la plupart du temps, c'est ça.
Voilà, voilà. On passe à la suite. Nous allons parler maintenant de The Next Penelope. Grosso modo, c'est un jeu de course mélangé à un shooter avec de la téléportation dedans. Et comme le nom l'indique, The Next Penelope, Pénélope, Ulysse, tout ça. Donc, ça reprend la mythologie grecque. Hein, y a Ulysse qui s'est barré. Sauf que là, c'est un mode un peu Ulysse 31, si vous voulez, quoi. D'ailleurs, Aurélien Regard, donc, qui est un des ex-patrons d'Arkedo, revendique clairement cette ascendance, quoi, on va dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que... comme dans l'Odyssée d'Ulysse, bah Ulysse il s'est barré, il est en train de galérer là pour revenir. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Pénélope, elle va pas rester les bras croisés à attendre sagement qu'il retourne à la maison, n'est-ce pas? Elle va aller le chercher. Entre autres parce que il se trouve que Poséidon la menace un peu, tout ça, donc elle est obligée d'aller chercher Ulysse, etc. Enfin bref. Moi, j'aime assez le concept. Je sais que Dwayne, c'est pas tout à fait le cas. Vraiment, l'idée de mixer un espèce de shooter en vue de dessus et en même temps d'avoir la course, moi, j'aime assez, d'autant plus que ça a l'air vraiment dynamique. Alors après, techniquement, c'est pas foufou, mais c'est assez joli. Et puis même, je trouve que le jeu a une identité visuelle assez sympathique. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il a titillé ma curiosité. Après, j'attends d'en voir plus, parce que pour le moment, on n'a vu qu'un devlog. Mais je trouve le concept assez original. Et puis, pour une fois qu'on a une affiche avec une nana où on montre pas son cul, ça ne peut qu'attirer ma sympathie, n'est-ce pas?
C'est clair. Non, mais ça fait déjà plaisir de voir un des créateurs d'Arkedo qui revient, vu que ça avait été assez embêtant de les voir fermer, vu que c'était un studio assez... enfin, qui créait des choses assez originales, même si pas toujours parfaites.
On précise que Aurélien Regard a fermé Arkedo en partie parce que justement, il voulait bosser en solo sur un projet comme celui-là.
Ouais, c'est vrai. Donc, moi, c'est vraiment la vue du dessus hein, qui me gêne un peu. C'est le concept en en lui-même est assez intéressant, même l'histoire avec Ulysse, le fait qu'elle parte directement le chercher, enfin la modification un peu l'Uchronie par rapport à l'histoire d'Ulysse est assez intéressante. Après, le gameplay a l'air assez dynamique, j'aime bien le côté téléportation donc qui reprenait sur un autre jeu
Qui est sorti il y a pas longtemps, je me rappelle plus du titre, excusez-moi, mais donc, voilà, c'est un shooter qui est sorti il y a pas longtemps.
C'est assez intéressant au niveau du concept en lui-même, visuellement. J'aime bien, après, c'est juste le fait que ce soit en vue du dessus, qui moi me plaît pas au premier abord, mais après j'attends quand même d'en voir plus et je suis content de le voir revenir sur un projet.
Voilà, on passe à la suite et Final Fantasy VII, Square Enix, vieille marotte, tout ça. Dwayne, est-ce que toi, ça te dirait un remake de Final Fantasy VII?
Franchement, déjà qui finissent avec leur Final Fantasy XV qu'on attend depuis des plombes. Sinon, Final Fantasy VII. Je veux dire, après Final Fantasy VII, c'est un souvenir de joueur. Moi, j'ai envie de le garder intact. Voilà. Elle est morte, tout le monde a pleuré, c'est bon, c'est maintenant fini, faut passer à autre chose. Et franchement, un remake de Final Fantasy VII, pourquoi pas, mais Square Enix prend déjà du temps à faire d'autres choses, donc c'est pas forcément quelque chose qui... c'est pas mon Shenmue à moi, quoi, en gros.
Alors, pourquoi on reparle de Final Fantasy VII cette semaine? Parce que Square Enix, à l'heure où on interrogeait donc son président, c'est Yoshida, je crois. Excusez-moi, le prénom, je n'arrive jamais à le prononcer, donc je vais m'abstenir. Il se trouve qu'ils ont déposé un nom de domaine qui est assez évocateur, on va dire, hein, Shira Company. Je pense que on peut faire difficilement plus évocateur, quoi. Bon, après, je soupçonne qu'en fait ce soit pour un énième spin-off machin truc, mais bon, je peux me tromper, hein. Mais voilà. Personnellement, je n'aurais rien contre un remake de Final Fantasy VII, d'autant plus que moi, je trouve que Final Fantasy VII a assez mal vieilli sur certains points. Déjà, ce serait bien d'avoir une vraie traduction en Europe, parce que la traduction qu'on a eue à l'époque, c'est... Voilà, c'est un peu de la merde, quoi, faut le dire. Ensuite, moi, je trouve que il y a une certaine mise en scène, une certaine narration que je trouve un peu désuète, notamment la mort d'un certain personnage qui, bon, ça m'a ému quand j'avais 15 ans, si vous voulez. Sauf que en vieillissant et avec pas mal de RPG dans ma besace, je trouve qu'en fait le personnage est assez transparent et que du coup sa mort n'a pas autant d'impact quand t'as un peu de bouteille, quoi, on va dire. En tout cas, ça a assez mal vieilli, je trouve, à ce niveau-là. Moi, il y a un truc qui me gêne, si tu veux, avec cette histoire de remake, c'est que chez Square Enix, je ne sais pas comment ils pensent, mais j'ai l'impression que dans leur tête, en fait, remake égale Final Fantasy XV. En gros, enfin, techniquement, quoi, j'entends. Hein. C'est-à-dire, on va te faire un jeu avec la techno d'aujourd'hui, etc. Enfin, ouais. Je veux dire, pour faire un remake, mais on leur demande pas forcément ça. Je veux dire, tu peux refaire des décors précalculés comme à l'époque, avec la techno d'aujourd'hui. Ça donnera un jeu qui est absolument magnifique, et ça réduira les coûts, de toute façon. Il suffit de refaire Final Fantasy VII avec la techno d'aujourd'hui, avec des décors précalculés. Alors, oui, ça coûtera de l'argent, mais pas autant que de faire un Final Fantasy XV. Parce que, à chaque fois, l'excuse bidon qui nous sort, c'est, faire un Final Fantasy VII avec la techno d'aujourd'hui, ça nous prendrait 10 ans. Ouais, attendez les mecs là, stop, on vous a pas dit de refaire Final Fantasy XV, hein. On n'a jamais demandé ça. On demande un truc genre, tu vois, retravailler les décors pour qu'ils passent en HD, tu vois, refaire les modèles des persos, parce qu'il faut dire qu'ils sont quand même super moches aujourd'hui, hein, ça fait saigner les yeux.
On leur demande pas en gros d'être à la pointe de la techno, quoi, de juste faire un truc propre.
Voilà, un truc propre qui en plus rendra super bien. Je veux dire, regardez Project Eternity par exemple. Regardez les quelques screenshots qui sont dispo. Je veux dire, c'est la 3D isométrique, c'est du décor précalculé, pareil. C'est magnifique, ça déchire la rétine. Ouais, c'est super beau. Alors, je ne vois pas pourquoi un studio indé serait capable de faire un jeu comme ça avec un budget de 3 millions de dollars. et que Square Enix ne serait pas capable de faire la même chose à un moment donné, voilà. Bon, après, je suis pas forcément non plus super demandeur. Honnêtement, je préférerais qu'il fasse des choses nouvelles, hein, et notamment qu'il lâche un peu Final Fantasy XIII, il serait temps, là, laissez Lightning tranquille, s'il vous plaît, merci.
Mais en plus, ils veulent pas la lâcher, hein. Ils ont dit que non, on va la garder. Elle va rester sur d'autres épisodes, apparemment. Mais bon.
Bah voilà. En plus, c'est vrai que Final Fantasy VII, bon, c'est un peu la licence qu'ils ont essayé de réexploiter. Bon, à un moment donné, il serait peut-être temps de lâcher l'affaire aussi, quoi. Et puis après, bon, juste un message aux fans, quoi. Je veux dire, c'est comme chez nous, quoi. À un moment donné, si ça arrive pas, c'est qu'il y a peut-être une raison. Tu vois, c'est peut-être qu'ils ont peut-être pas envie en fait. Mais encore une fois, moi je pense que si ça n'arrive pas, c'est tout simplement parce que chez Square Enix, ils n'envisagent pas. C'est ça qui me dépasse avec certains éditeurs, si tu veux. C'est que pour eux, à chaque fois, ressortir une vieille licence, c'est forcément faire un truc à la pointe de la technologie, tu vois. Il n'y en a pas un qui va se dire on va tenter de relancer une vieille licence, de respecter cette licence-là, mais en faisant quelque chose de plus modeste sur le budget, tu vois. Pas forcément quelque chose de laid, attention, j'ai dit plus modeste, parce qu'il y a moyen de faire des choses très belles aujourd'hui, avec des moyens beaucoup moins importants. Encore une fois, regardez les studios indés, regardez les Double Fine Adventure, enfin Broken Age. C'est un jeu superbe, en 2D, etc. C'est magnifique. Et le budget fait moins de 10 millions de dollars, c'est pas du AAA. Moi, je pense que ça peut être intéressant, tu vois. Malheureusement, chez les éditeurs, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans cette optique-là, quoi. Bon, trailer, maintenant. trailer, The Order 1886, et Infamous, le tout nouveau. Alors, Dwayne, je voudrais te demander... pour résumer, c'est quoi ces deux jeux?
Donc déjà, on va passer très rapidement sur Infamous, hein, parce que certes, effectivement, beaucoup disent oui que c'est le jeu qui va faire, enfin le jeu de la PS4, enfin le premier gros jeu intéressant et tout. Très franchement, au niveau du gameplay, après il y a une seule originalité avec le nouveau Infamous, c'est enfin ils essayent en tout cas de faire passer ça pour quelque chose d'original, c'est qu'on va pouvoir choisir vraiment le bien ou le mal. À côté, là, ils ont montré, par exemple, un gameplay où on va rencontrer un autre personnage qui a des pouvoirs et où on va pouvoir la corrompre ou sinon la sauver, on va dire, et la faire passer du côté non-obscur de la force. Voilà, donc il y a ça. Au niveau d'Infamous, franchement, pas grand chose de nouveau. Ils avaient déjà montré pas mal de gameplay, que ce soit le 3 ou après.
Juste, je voulais te demander, toi qui as joué donc aux deux premiers, il me semble.
Mmh. Oui, tout à fait.
Au niveau du dynamisme, tu en penses quoi? Parce que moi, en fait, si tu veux, moi, je me suis limité qu'au 1. Et je trouvais que quand même au niveau de ça avait beaucoup plus de pêche en fait, que ça se rapprochait petit à petit par certains aspects d'un prototype par exemple. Bon, qui avait ses défauts aussi, mais qui était super pêchu dans les déplacements, tu vois, ce genre de choses. Et je trouvais qu'il était beaucoup plus pêchu que le premier en fait. Donc par rapport aux deux, comme je n'y ai pas joué, je voulais te demander ce que tu en pensais quoi.
Ouais, au niveau des effectivement, déjà le 2 par rapport au premier, enfin je les ai fait vraiment à des intervalles très courts, les 1 et 2, donc c'est vraiment le 2 déjà évoluait pas mal au niveau du gameplay. Donc ça, on sentait vraiment beaucoup plus le sentiment de surpuissance par rapport au pouvoir et autres. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a effectivement quelques ajouts de gameplay, du genre, on a par exemple le pouvoir de la fumée ou le pouvoir des néons, enfin dans le gameplay qu'on a vu en tout cas, et c'est des choses qu'on va prendre par rapport à l'environnement lui-même. Par exemple, on va avoir un sigle, enfin une enseigne, et on va pouvoir prendre le pouvoir par rapport à ça. Sinon, au niveau des déplacements en eux-mêmes, ce que je trouve super intéressant, c'est la fluidité avec la fumée ou autre. Mais par rapport aux deux, on a, enfin, j'ai pas senti vraiment de grande évolution, quoi. On est vraiment sur du 2.5 au niveau du gameplay, du ressenti vraiment de puissance, en tout cas.
Bah, justement, tu parles de 2.5, là, franchement, 1886 The Order, pour le coup, ça fait vraiment Gears of War 1.5, quoi. Enfin, je veux dire, c'est Gears of... Et encore 1.5, ouais, non, même pas, en fait, c'est
3,
Gears
3.
Of War avec une skin Angleterre, fin du 19e, voilà, quoi.
Un peu. Après, ça serait... Je pense que ça serait un peu injuste de se prononcer directement sur la qualité, bah, mais on est obligé de le faire par rapport à ce qu'on a vu.
Moi, attention, je ne porte pas de jugement de valeur sur le jeu. Le truc, c'est que on ne m'a rien montré. Moi, tout ce qu'on m'a montré, c'est une séquence de gameplay avec Gears of War, c'est exactement Gears of War, et une séquence de QTE. Donc voilà, enfin, moi, comme on m'a demandé aussi mon ressenti dans les forums, n'est-ce pas? Je donne mon ressenti. Pour moi, pour le moment, ce que je vois, c'est Gears of War 1.5 avec une skin Londres. Alors oui, c'est la direction artistique est sympa, mais après, le jeu, concrètement, on n'a pas vu grand-chose.
Ouais, c'est clair. Donc là, on a vu effectivement un peu de gameplay, donc déjà au niveau de l'ambiance... On est sur quelque chose effectivement d'assez péchu, je trouve. Donc moi j'aime bien le côté un peu steampunk, l'Uchronie, le fait qu'on est voilà au 19e siècle. Après au niveau du background, enfin de l'histoire, on est sur donc ça reprend un peu la mythologie du roi Arthur avec par exemple au niveau des noms de son escouade, on a Perceval, Lafayette, donc là on contrôle Galahad. Donc après au niveau de l'histoire en elle-même, enfin ça a l'air d'être quelque chose d'assez intéressant, d'assez poussé. Ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment avoir un ressenti cinématographique à ce qu'ils ont dit. Donc ça veut dire qu'au niveau on a beaucoup de cinématiques, enfin de ce qu'on en a vu déjà. Et on va pouvoir contrôler assez souvent le jeu. Donc, je donne un exemple. Au début du gameplay qu'on a vu, on est sur une cinématique où on va regarder un peu les environs. Là, on pourra contrôler le personnage et détecter des choses. Après, je dis pas que c'est... Franchement, c'est pas quelque chose d'extrêmement original, mais bon, c'est leur vision.
Moi, vas-y. Honnêtement, ça me fait peur. Je veux dire, si c'est pour voir un film, moi je vais au ciné. Hein. Je veux dire, ça a l'air encore moins interactif qu'un film de, enfin un film. Bon, je vais pas provoquer la polémique sur les productions de David Cage, mais ça a l'air moins interactif que les expériences proposées par David Cage. Donc à un moment donné, si c'est vraiment ça le jeu, parce que encore une fois, moi je pensais que c'était voilà la cinématique pour en mettre plein la vue. Là, je commence à flipper, tu vois.
Ouais. Donc là, non, concrètement, on va pas pouvoir encore vraiment se prononcer à ce niveau-là. Moi, j'attends encore, je suis encore assez confiant sur le potentiel du jeu. La seule chose, c'est que personnellement, je suis aussi un peu comme toi, je suis un peu refroidi, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a vu, on a juste vu beaucoup de cinématiques. Juste au niveau du technique, c'est par contre là, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a rien à redire, c'est vraiment...
Bah, en même temps, vu les couloirs qu'on a vus, je veux dire, c'est facile de faire des trucs beaux. Hein.
Ouais, pas faux, pas faux. Mais voilà, le gameplay... Après, moi, j'aime bien, j'adore la licence Gears of War, hein. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Mais là, on est sur une autre promesse, on n'est pas sur la promesse d'un jeu bourrin à la Expandables, on est vraiment sur une histoire poussée avec, enfin, à ce qu'on avait compris, un gameplay assez innovant. Et là, c'est pas ce qu'on a vu. Donc perso, je suis un peu déçu, même si je suis encore confiant sur le potentiel de 1886 The Order, sachant que Ready at Dawn donc là on va voir ce qu'ils ont approuvé, mais moi j'ai bien aimé en tout cas ce qu'ils ont fait auparavant, surtout Daxter que j'avais vraiment adoré au début de la PSP. Donc ils ont quand même un talent au niveau du gameplay. J'attends de voir ce qu'ils pourront faire en tout cas.
Et c'est leur premier gros jeu depuis un moment quand même, il me semble.
Ouais, c'est clair. Là ils avaient fait les God of War sur PSP, Daxter comme j'ai dit au début de la PSP aussi. Et là, c'est vraiment leur premier gros jeu console.
Ok. Maintenant, on va passer au gros morceau. Pourquoi? Irrational Games ferme ses portes. Et en gros, il y a Ken Levine qui est arrivé cette semaine qui a fait « Bon, j'en ai marre, je me casse. » Voilà. Salut. Non, mais sérieusement, Dwayne, enfin, je pense que, en gros, on est comme tout le monde, quoi. Je veux dire, personne ne s'attendait à ça, quoi.
Ouais, c'est clair. Surtout que, bon, après, ça avait pas été des chiffres de vente mirobolants, mais BioShock Infinite, c'était quand même bien vendu. On n'avait aucune raison de voir Irrational Games fermer ses portes, et d'un seul coup de massue, quoi. J'en ai marre, je veux faire des trucs un peu plus, sachant qu'il a dit voilà qu'il veut se concentrer sur des jeux à plus petite échelle. Là, apparemment, il a pris 15 personnes de chez Irrational, et puis il va partir sur un studio un peu plus modeste. Et voilà, c'est vraiment un coup de massue, et on s'y attendait pas du tout, quoi.
Surtout que, enfin, moi je sais pas comment tu l'as pris, mais moi j'étais un peu mal pour les employés quand même, tu vois. Enfin, ça fait genre bon, c'est moi la star, tu vois. Je me casse, on ferme, hein. Oh, hein, quoi, vraiment, pourquoi? Parce que là, quand même, faut voir, c'est des, je sais pas combien exactement ils étaient, mais si, vu que le budget BioShock Infinite, tu vois, ça devait au moins se rapprocher de la centaine, tu vois.
Oui, c'était un peu plus d'une centaine de personnes. C'était entre 100 et 150 personnes. Et là, là, voilà, ça fait tous ces gens-là sont maintenant au chômage parce que le mec a dit qu'il voulait partir. Après,
on sait pas les détails, mais juste la façon dont ça a été présenté, ça c'est vraiment le mec. Bon, je me cache, j'en ai marre, et puis comme je suis le patron de la boîte, après tout, je la ferme, voilà, donc salut.
Ouais, je sais pas si, parce que concrètement, Irrational, je veux dire, c'est pas que Ken Levine, il aurait pu choisir une autre personne pour gérer la boîte et continuer à faire des jeux chez Irrational. Enfin, il y avait quand même une centaine de personnes par rapport aux jeux qu'ils ont fait, donc de talent. Et pourquoi ne pas laisser cette boîte vivre et trouver tout simplement une autre personne pour diriger la boîte, sachant que parmi justement cette centaine de personnes de talent, il y avait peut-être des personnalités qui auraient pu émerger et continuer à pérenniser la marque, quoi. Donc ça me paraît assez bizarre. Après, peut-être qu'on aura plus d'infos, hein. Peut-être que c'est aussi 2K qui a décidé à ce niveau-là, que vu que Ken Levine c'était vraiment la personnalité sur Irrational, qui a peut-être décidé de fermer, de remettre tout justement de remettre ces personnes sur d'autres studios, enfin d'autres filiales de la boîte. Il y a aussi peut-être ce type de choses qui s'est passé, hein. Donc on ne sait pas exactement les tenants et les aboutissants de l'affaire, mais en tout cas c'est assez triste de voir qu'une boîte comme ça ferme d'un seul coup, quoi.
Surtout que voilà, ça signe clairement la mort de BioShock, hein, je veux dire. Donc bon, après c'est peut-être pas plus mal, je veux dire, après 3 épisodes, je pense que aussi le père Levine, il commençait à en avoir marre, quoi. Il voulait sûrement passer à autre chose, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Et après tout, moi je trouve ça pas plus mal que Levine puisse faire ce qu'il a envie de faire, quoi. Après voilà, c'est une centaine de personnes au chômage. C'est jamais une bonne nouvelle, et en plus bon, il y avait des histoires de DLC pour BioShock, je crois qui était attendu, etc. Bah finalement je crois que ça va passer à la trappe, hein.
Ouais, enfin, on a eu le dernier DLC attendu, puis voilà, quoi. Ouais. Moi franchement j'attends jamais les DLC, parce que moi c'est vraiment, tu fais une œuvre de base, après franchement les DLC,
Celui qu'ils ont fait là récemment, il paraît qu'il est pas mal, hein. Enfin pour le coup ça avait rien à voir avec le jeu de base, c'était sur Rapture, etc. C'était dans le délire univers parallèle qu'ils avaient développé dans le jeu. Ça avait l'air à peu près intéressant, après j'ai pas testé, mais ça avait pas l'air trop foutage de gueule par rapport à un certain nombre de DLC, voilà. Enfin bon, dans tous les cas on est curieux de voir ce que va faire le père Livide, hein.
Ben, c'est clair, ouais.
Voilà, moi je bon après je trouve dommage qu'il ait pas décidé de partir en indépendant, mais ça c'est mon côté anarchiste voilà. Bon, on va terminer donc d'ailleurs l'actualité c'est terminé, hein, moi que tu aies quelque chose à ajouter là-dessus.
Non, c'est bon.
Et on va passer au jeu du moment, un jeu donc qui a été financé le 21 avril 2012. Et ça s'appelle The Banner Saga.
Voilà, donc The Banner Saga, donc c'est un jeu des Texans de Stoic Studio. Donc comme tu l'as dit, ça a été financé sur Kickstarter en avril 2012, donc pour un peu plus ils ont récolté un peu plus de $720,000. Et donc c'est un RPG tactique qui se passe dans un univers un peu viking. Donc déjà au niveau de l'univers en lui-même, est-ce que tu peux nous faire déjà une rapide présentation de The Banner Saga?
Les dieux sont morts. Ouais,
merde.
C'est comme ça que commence The Banner Saga. On est dans un univers où l'hiver est arrivé, on va dire. L'hiver est venu, hein, pour ceux qui connaissent, n'est-ce pas? Et un espèce d'univers où l'hiver est permanent, où le soleil s'est stoppé dans le ciel, il ne bouge plus. Un univers, en gros, qui est en train de mourir. Très clairement, c'est direct, t'arrives dans cet univers-là, tu as ce truc qui te tombe sur la gueule, comme ça, tu sens que, voilà, t'es dans une histoire où voilà ça va pas être joyeux ou voilà va y avoir des morts, enfin tu il y a une espèce de mélancolie qui s'installe de facto comme ça, qui ne va jamais cesser de t'accompagner tout au long du jeu et qui va être accentuée par une direction artistique et par une bande son qui sont vraiment dans ce ton-là, quoi. Donc, The Banner Saga, c'est un RPG tactique, comme on vous l'a dit. C'est un RPG tactique qui, pour le coup, a des originalités, mais qui, dans le fond, est assez classique. C'est-à-dire que, ne vous attendez pas à un RPG où vous allez avoir des choix à la Mass Effect, en gros, où vous allez influencer le destin du monde, tout ça. Non, rien de tout ça. The Banner Saga, c'est un jeu où, effectivement, vous avez des choix. Mais ces choix-là, en fait, ils vont déterminer le destin de vos compagnons de route. C'est un jeu assez intimiste, en fait, mine de rien. Parce que tu vas croiser un certain nombre de personnages, comme ça, et c'est un univers extrêmement dur, où, voilà, tu vas développer des personnages, etc., où ils vont crever à un moment donné, parce que tu auras pris la mauvaise décision, etc.
Tu dis que les personnages vont peut-être mourir au fur et à mesure de l'aventure, donc ça, c'est définitif, c'est-à-dire que t'as un compagnon, il va crever, et tu le vois plus de, c'est définitif, quoi.
Exactement. Pour vous présenter un peu comment se déroule le jeu, en fait, vous dirigez une espèce de caravane. Cette caravane se déplace sur un plan horizontal, et vous avez un espèce d'arrière-plan magnifique. Enfin, tout est dessiné à la main, etc. Et pourquoi ils ont choisi cette vue-là, en fait? Parce que la vue s'éloigne de la caravane, comme ça, pour vous montrer, en fait, l'immensité de l'univers que vous allez parcourir. Et donc, la caravane se déplace en ligne droite. Là, vous me dites, bon, ok, quel intérêt? Déjà, bon, ça participe de l'ambiance et de l'immersion du truc, parce que vraiment, des fois, tu traverses des décors, t'as des montagnes gigantesques en arrière-plan. Je sais pas si t'as vu, Dwayne.
Ouais, j'ai un peu vu au niveau des vidéos de gameplay, tout ça. C'est vraiment assez magnifique au niveau de l'AD, en tout cas.
Voilà. Et donc, ils ont choisi ce mode de vue pour ça, pour te donner vraiment ce sentiment d'immensité, ce sentiment que, voilà, t'es vraiment très peu de choses, quoi. Par contre, le revers de ça, c'est que c'est vraiment un jeu extrêmement linéaire, donc à l'image de beaucoup de jeux du genre, hein, attention, parce qu'il y a pas mal de RPG tactiques qui sont assez linéaires, comme ça, je pense notamment Final Fantasy Tactics ou Ogre Battle, où finalement, tu, à part choisir d'aller au point A ou au point B, tu fais pas grand-chose, quoi, on va dire.
Ouais, mais tu dis justement que c'est linéaire, mais est-ce que ça sert au moins l'histoire, et est-ce qu'on est sur quelque chose de péchu au niveau de l'histoire en elle-même, le...
Alors oui, c'est est-ce que en fait, si vous voulez, on suit deux groupes. On suit un groupe de Varles. Alors les Varles sont une des trois races du jeu, parce qu'il y a trois races. Il y a les Varles, les humains et les Dredge, dont je vous parlerai à la fin. Vous suivez d'à côté un groupe de Varles, donc qui est chargé d'escorter un prince humain jusqu'à la capitale des Varles pour négocier une alliance, en gros. Et de l'autre, vous suivez Rook, Alet, ainsi que Hiver. Donc Rook et Alet qui sont des humains. Rook étant un mec, si tu veux, c'est le mec un peu 40 ans, tu vois, un peu bourru, qui donc le père d'Alet. Donc qui est déjà, voilà, quelqu'un d'accompli, etc. Hiver qui est un espèce de varle un peu mystérieux, tu vois, enfin, tu sens qu'il a de la bouteille, qu'il a fait pas mal de batailles, mais il aime pas trop parler de son passé, etc. De l'autre, Ludin, le prince humain, c'est un peu le péteux, tu vois, que t'as envie de lui mettre trois claques dans sa tronche, quoi.
Ah oui, le le comique de la bande, quoi.
Voilà. Donc tu suis ces deux groupes-là, sachant que Ludin, il vient des terres du sud. Qui sont les terres où, voilà, on vit encore à peu près bien, tu vois. Enfin, c'est les terres des humains, quoi, en gros, parce que il faut savoir qu'il y a eu une guerre par le passé entre les Varles et les humains, que les humains, on va dire, les ont plus ou moins gagnés, en tout cas, qu'ils ont réussi à repousser les Varles, que, sauf qu'à ce moment-là, en fait, il y a une troisième race qui est apparue, qui s'appelle les Dredge, qui sont des espèces d'hommes armures, n'est vraiment armure, quoi. C'est des armures vivantes, en fait. Mmh. Et qui les ont poutrés tous les deux, quoi, en gros. Donc, du coup, ils ont dû s'allier, etc. Et ils avaient repoussé, sauf que là, ben, les Dredge reviennent, en fait. Alors, ça fait un peu classique, comme ça, mais vous vous rendrez assez vite compte que il y a quelque chose de sous-jacent par rapport à ça. Et que, voilà, c'est il y a quelque chose de plus profond derrière ça, derrière le retour des Dredge, etc. Globalement, si tu veux, c'est vraiment un univers, comme je l'ai dit au début, un univers qui est en train de crever, et toi, tu assistes à ça, quoi.
Ouais.
Le fait que tu te vois, tu te déplaces sur un plan horizontal, que t'as cette impression, en fait, de fuite permanente, quoi. Parce que, je veux dire, d'un côté, t'as Rook, Hiver et Alet qui sont au nord-est. Et en fait, il y a de plus en plus de Dredge qui débarquent, etc., qui débarquent en masse, quoi. C'est une invasion, quoi, en gros. Donc, le fait qu'ils se déplacent comme ça, t'as vraiment, tu sens cette impression de fuite, quoi. Et tu la ressens d'autant plus que dans ce jeu, tu dois gérer ta caravane. C'est-à-dire que, en fait, ta caravane, déjà, c'est un certain nombre d'hommes que tu vas recruter dans ta fuite. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas tomber sur un village, en fonction de tes choix, tu vas dire, allez, hop, on va les sauver, etc. T'arrives à les sauver, tac, t'as un certain nombre d'hommes qui te rejoignent, etc. Sauf que ça, tu dois le sous-peser avec le fait que sur la carte, tu dois aussi gérer un paramètre qui est très important, à savoir la nourriture. C'est-à-dire que si ta caravane n'y a pas assez de vivres, en fait, pour nourrir les gens, bah tout simplement, ils vont crever. Et là, je voudrais démentir certaines choses que j'ai lues sur Internet, à savoir que contrairement à ce que j'ai lu, la gestion de la caravane a une importance cruciale dans le gameplay. Parce que j'ai lu certaines personnes dire « ça n'a aucune importance », ça c'est faux, c'est totalement faux. Pourquoi ? Parce que caravane pas nourrie, égale mort. Mort égale baisse de morale, égale moins de combattants durant les grosses batailles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si t'as moins de combattants durant les grosses batailles, ça veut dire que durant les micro-batailles en mode tactique, tu auras plus d'adversaires. Déjà, premier point. Et aussi, si tu as une baisse de morale parce qu'il y a trop de morts, parce qu'il n'y a pas de bouffe, etc., ça veut dire aussi que tu n'auras pas des points de volonté. Et les points de volonté, en fait, si tu veux, c'est ce qui te permet de lancer les super attaques, quoi.
Ouais.
Genre de balancer des éclairs pour les mages, de faire des coups spéciaux, etc. Donc forcément, tu vois, t'accumules ça à un moment donné. Alors ok, si tu joues en mode normal, ça va être a finger in the nose. Par contre, si tu joues en mode hard, tu le sens passer. Moi, je te le dis, si tu fais n'importe quoi au niveau de la gestion de la caravane, tu te prends des branlées, mais c'est violent, quoi. Le jeu est super punitif à ce niveau-là.
Ouais, donc,
il faut faire très attention à ce que tu fais.
T'as une gestion, en fait, en plus de l'aspect effectivement RPG tactique, t'as en plus un aspect gestion assez poussé au niveau de ta caravane, tes hommes, la nourriture.
Alors, c'est pas assez poussé, parce que si finalement, c'est assez simpliste, quoi.
Ouais. En gros, en fait, dans le gameplay, c'est pas vraiment poussé, mais au niveau de l'impact ouais. que ça a ensuite sur l'univers, là, c'est... Ok.
Ça a une importance.
Ouais.
Voilà. Et aussi, il y a aussi le fait tout simplement que si tu n'as pas de bouffe, tu ne peux pas camper. Comme je disais, t'as cette avancée permanente dans le froid. Les gens sont fatigués, etc. Il y a le moral qui baisse. Voilà. Et de temps en temps, il faut camper. Et le fait de camper 1, 2, 3, 4 jours, plus longtemps tu vas camper, en fait, plus le moral de tes troupes va remonter parce qu'elles se reposent, etc. Voilà. Et donc, quand t'as pas de bouffe, tu ne peux pas camper. Donc, forcément, pas camper, baisse de morale, etc. Enfin bref, tu vois, il y a assez rapidement, en fait, si tu fais pas attention, tu peux avoir un effet boule de neige qui se met en marche, quoi.
Ouais. Moi, j'aimerais avoir ton ressenti aussi sur le système de combat en lui-même, bien expliqué à ce niveau-là, ce que t'en as pensé.
Alors, déjà, donc comme je vous l'ai dit, il y a la carte générale. Donc, vous avancez en le froid. Plan horizontal. Par moment, vous allez tomber, genre, tu vois un groupe de dredge, une armée dredge qui s'approche. Et là, en fait, on va te donner trois choix, en gros. Soit tu les approches en mode bourrin, parce que t'es plus nombreux qu'eux. Sachant que là, si tu fais le mauvais choix, en gros, ça va se retourner contre toi. Enfin bref, enfin voilà. Soit tu les approches en mode tactique, etc., et t'as un troisième choix aussi, par contre, tu peux fuir aussi. Donc, voilà. Oui, parce que moi, en fait, dans le jeu, je n'ai pas fui une seule fois, hein, donc... en fonction de ces choix, ça va changer la configuration du terrain quand tu vas passer à la vue tactique. Alors, la vue tactique, c'est très classique, hein. Si vous avez joué à Ogre Battle, Final Fantasy Tactics, vous allez tout de suite comprendre. Donc, c'est de la 3D isométrique classique avec des cases en mode carré, etc. En gros, c'est un jeu d'échecs en 3D isométrique. Tout simplement. Et je vais pousser l'analogie avec les jeux d'échecs d'autant plus loin, c'est que vraiment, tu as des pièces comme au jeu d'échecs, quoi, je veux dire. Il y a certaines unités qui ont, des fonctions très particulières, genre en général les varles, si tu veux, il y a certaines unités, ça va être plutôt les gros sacs à PV, tu vois, parce que il faut bien voir que les varles, en fait, c'est des géants, si tu veux, qui ont la particularité d'être des énormes tas de muscles. Voilà, là où les humains, bon, en général, ça va être plutôt ils ont aussi des unités qui défendent bien, si tu veux, mais c'est plutôt des unités qui vont apporter des boosts, quoi. Par exemple, les unités défensives chez les humains, c'est des unités, par exemple, où quand tu les mets les unes à côté des autres, leurs points de défense s'accumulent, quoi, si tu veux. Leurs points d'armure s'accumulent.
Ok, ok.
Alors, je vais vous expliquer maintenant le système de combat en lui-même. Donc, en fonction des choix que tu as fait avant, la configuration du champ de bataille n'est pas la même. Et dans ce système-là, quand tu passes vraiment en mode combat, tu remarques deux jauges. Tu as d'un côté la jauge d'armure et de l'autre côté la jauge de points de vie. Sachant que là où The Banner Saga a vraiment son originalité par rapport à Final Fantasy Tactics, à Fire Emblem, etc., c'est que, en fait, les dégâts faits par tes personnages dépendent de ta jauge de points de vie. C'est-à-dire que si tu as 18 points de vie, admettons, et que l'adversaire en face a 14 en armure, tu vas faire 4 points de dégâts. Donc, ce qui veut dire aussi que si tu as un nombre de points de vie inférieur à l'armure de ton adversaire, tu as d'autant moins de chances que de faire des dégâts. Ça, par exemple, si tu as, je sais pas moi, 10 points de vie que l'autre il en a 12, tu vas avoir 80% ou 70%, tu vois, de faire un point de dégâts, quoi. Et que plus la jauge d'armure est élevée, en fait, moins tu auras la chance de faire des dégâts. Donc ça veut dire qu'un mec qui a un 20 en armure et l'autre il a 10 en face de points de vie, ben il va faire aucun dégât, quoi. Mm-hmm. Donc je sais pas si je suis clair là.
Ouais, c'est assez clair. En tout cas, ça a l'air d'être assez assez poussé, assez intéressant. Donc, mais toi, est-ce que t'as trouvé ça assez poussé justement à ce niveau-là par rapport aux autres?
J'ai trouvé le système extrêmement intelligent. Ouais. Parce qu'en fait, tu as un choix qui doit s'opérer à chaque fois que tu vas t'attaquer à une unité. Est-ce que je décide de baisser son armure parce que tu peux briser son armure en fait? Donc à ce moment-là, tu casses son armure, mais tu ne lui fais pas de dégâts. Donc ça veut dire que si tu ne lui fais pas de dégâts, elle garde sa capacité offensive. Donc si elle garde sa capacité offensive, ça veut dire que pendant ce temps-là, elle peut te faire des dégâts.
Okay. Enfin,
sauf si t'as éventuellement, tu vois, assez d'armure. Mais justement, ça veut dire qu'il va falloir que tu joues sur le placement de tes unités en fait, pour faire en sorte que, alors si lui, je veux lui baisser son armure, mais qu'il a beaucoup de points d'attaque, il faut que je mette en face une unité qui, par exemple, au moment où mon unité va lui faire baisser son armure, j'ai une autre unité qui va dire, qui va utiliser une capacité spéciale, qui va dire, toi, au prochain tour, tu m'attaques forcément. Tu vois, c'est en gros c'est la capacité provocation. Ouais, t'es qu'un gros minable, etc. Tac, il attaque au prochain tour, et du coup, comme elle a une armure assez élevée pour encaisser les coups, ben l'unité devient useless quoi. Et en plus elle perd son armure à ce tour-là. Là tu vois c'est un exemple que je donne comme ça, mais il y a plein ouais, d'exemples. Ouais. Et ce que je trouve intéressant c'est que par-dessus ce système où tu dois choisir entre le fait de baisser ses points de vie et donc de baisser sa capacité d'attaque ou baisser son armure et donc investir pour plus tard au moment où t'as ta grosse unité qui va arriver et qui va la tuer en un coup, tu vois. En plus de ça, tu as des capacités spéciales qui sont très intéressantes. Par exemple, tu as une unité archère qui a une capacité qui permet de lancer une flèche en l'air. Et en fait, tu choisis où la flèche va retomber. Et si l'unité adverse passe sur la case où tu as choisi de tirer, eh bien la flèche va retomber à ce moment-là, et elle va te stopper l'aide de l'unité et l'unité perd son tour. Sachant qu'en plus de Banner Saga a une autre spécificité qui le rend très original, je trouve, par rapport à d'autres RPG tactiques, mais qui ne sera pas apprécié justement par les fans du genre, enfin, par certains fans du genre, c'est que, en fait, tu as forcément, dans ce jeu, une alternance au niveau des tours. C'est-à-dire que, un coup tu vas taper, un coup ton adversaire va taper, un coup tu vas taper, un coup ton adversaire va taper. Ce n'est pas, par exemple, comme dans un Final Fantasy Tactics, si tu veux, ou ça dépend de la vitesse de telle unité, etc. Ça ne dépend absolument pas de ça. Vraiment, il y a obligatoirement une alternance entre les unités. Par exemple, si vous êtes 15 et qu'en face, ils sont 3, il y aura vraiment toujours une parité au niveau des coups, quoi. Donc, ça veut dire que 3 unités tapent autant que... Enfin, vont finir par taper plus, si tu veux, que 15 unités, quoi. Parce qu'il faut il y a une compensation au niveau des tours. Je sais pas si je suis clair.
Ouais,
aussi.
Ouais.
Donc... Là, tu vois, forcément, tu as des choix tactiques qui s'opèrent, quoi. Par exemple, moi, ça m'arrive, tu vois, de dire, ok, là, je sacrifie mes unités, tu vois. Je sacrifie. À la fin, il y a ces 3 unités-là que je garde, qui sont super balèzes, et qui font tout ravager à la fin, quoi. Parce qu'en gros, j'aurais fait baisser leur point d'armure tellement bas que t'as mes gros crocolas qui arrivent et qui... Pouf, voilà, fin de la partie, tu passes de 10 à 0, tout, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Il y a des choix stratégiques comme ça qui sont très intéressants. Il y a aussi le fait que, voilà, j'ai parlé des capacités spéciales, genre, il y a des unités, tu vois, elles tapent genre 4 coups. Ces 4 coups, ils réduisent aléatoirement soit l'armure, soit les points de vie. Enfin, bref. Tu vois, il y a vraiment une complexité au niveau du système de combat que je trouve excellente. Et ce d'autant plus derrière que si une unité à toi meurt, entre guillemets, est blessée plutôt, parce que ça, c'est pas du tout comme dans Fire Emblem, par exemple, tu ne peux pas mourir pendant les combats. Si ton unité est mise hors combat durant la phase tactique, en fait, elle est juste blessée, en fait. Okay. Elle est blessée pendant un certain nombre de jours, etc. Et en fait, le truc, c'est que les blessures, par contre, ça, du coup... ça te réduit tes points de vie pendant un certain nombre de jours, ça te réduit, ça te donne des malus, tu veux, pendant un certain nombre de jours, et du coup, si tu veux les soigner, il va falloir soit continuer à avancer et croiser les doigts pour que, durant cette période-là, il y a personne qui t'attaque, quoi, soit faire une pause, poser un campement, tu vois, et attendre le nombre de jours nécessaires pour que ton unité se soigne, sachant que durant cette période-là, tu consommes de la bouffe. Enfin voilà, t'as des choix tactiques qui se font à ce moment-là, quoi. Bref, il y a vraiment en permanence, tu dois pondérer tes choix, tu dois réfléchir tes choix. Si tu fais un choix de sacrifier telle unité pendant la bataille, est-ce que c'est judicieux par rapport à ce qui va se passer derrière ? Est-ce que tu prends pas trop de risques, etc. ? Bref, contrairement à ce que certains ont dit, je trouve moi qu'il y a une interconnexion entre la carte et ce qui se passe en bataille. Et c'est ce qui rend ce jeu vraiment très très intéressant au niveau de la phase tactique. Alors après, je suis d'accord, il y aurait pu y avoir des trucs plus avancés, notamment le fait que y ait une phase un peu à la Suikoden, tu vois, je sais pas si tu vois, mais mm-hmm. Suikoden, tu peux gérer tes grosses batailles. Alors que okay. Là, finalement, les grosses batailles, c'est se gère en mode, il y a trois phrases, choisis comment tu vas faire ton approche, etc. Et baston, quoi. Franchement, sur le plan du gameplay, moi, c'est un jeu qui m'a passionné. Voilà.
Ouais. Donc, je résume, on est sur un univers très travaillé. Au niveau de la DA, tu l'as dit, ça défonce. Le système de combat est intelligent et original. Donc, en gros, t'es pas déçu d'avoir backé, quoi.
Ah non, pas du tout. D'autant plus que la direction artistique, déjà, elle est très marquée. Ça ne plaira pas tout le monde, mais je ne sais pas si vous voyez La Belle au Bois Dormant. Au niveau des couleurs, on voit qu'ils se sont inspirés de ça. Déjà, d'ailleurs, ils le revendiquent ouvertement. Il y a vraiment une identité du visuel qui est extrêmement forte, quoi. Et c'est accompagné aussi par une bande son, mais qui est... Pff, oh là là, quoi. Je t'assure que dans ce jeu... Alors, il y a des musiques instrumentales, etc., qui sont déjà très jolies. Mais en plus, il y a des espèces de chants où, tu vois, il y a une mélancolie qui se dégage c'est un univers qui est en train de mourir. Et c'est accompagné par ce gameplay où t'as une espèce d'impression de fuite permanente, où t'as tes compagnons qui crèvent. Et où il y a le fait aussi que, comme dans ce jeu, tu n'as pas... de sauvegarde, enfin, tu as une sauvegarde automatique, si tu veux. Tu ne peux pas choisir quand tu sauvegardes, en fait. Du coup, ils ont fait ça pourquoi? Pour te forcer à assumer tes choix. C'est-à-dire que, s'il y a des scènes, à un moment donné, des scènes de roleplay, où tu vas devoir choisir, alors, là, par exemple, il y a une scène, à un moment donné, c'est au tout début du jeu, tu vois, où, il y a, un dredge qui attaque, ta fille. Et, en fait, tu dois choisir, alors, soit tu la préviens, parce qu'il arrive par derrière, en fait. Donc, soit tu la préviens, soit tu tires à l'arc. Enfin, il y a plusieurs choix. En fait, à un moment donné, tu vois, il te donne un indice comme quoi ton personnage, il est assez doué à l'arc, en fait. Donc, du coup, le choix logique, à ce moment-là, c'est de tirer à l'arc, comme ça, tu le tues, etc. Sauf que si tu fais un autre choix, tu vas, par exemple, choisir de la prévenir, sauf que ça va pas être bon. Et à ce moment-là, il y a un autre perso qui va s'approcher pour protéger ta fille, en fait. Et ce personnage, il va crever comme une grosse merde. Tout le long de l'aventure, tu vois, en mode replay, ils vont te donner des petits indices. Alors, des fois, c'est pas évident.
Ouais.
Mais, contrairement à ce qui a été dit, encore une fois, je trouve que c'est pas des choix aléatoires, en fait. Il faut vraiment lire le texte et être très attentif à ce qui se dit. Et si tu es très attentif, en général, alors pas toujours, tu vas trouver la bonne solution, en fait. Sachant que aussi, tes choix influencent le moral de ta caravane, etc. Enfin bref, il y a vraiment des... Moi, je trouve que c'est un jeu qui est super bien huilé, en fait, et qui tourne super bien. Par contre, il a un défaut, effectivement, déjà. C'est que si tu joues en mode normal, à mon sens, tu ne profites absolument pas du jeu. Tu profites de l'histoire, effectivement. Mais les mécaniques de gameplay, si tu veux, comme le jeu est très facile, comme t'as de la bouffe tout le temps, t'as pas cette sensation d'urgence que tu peux avoir quand tu joues en hard.
Ouais.
Honnêtement, je vous recommande de jouer en difficile. Pas pour le plaisir de la difficulté, mais parce que en difficile, tu as cette impression de désespoir qui se dégage du truc. Et c'est vraiment, enfin, tu récupères l'ambiance en fait que les mecs veulent rendre vraiment.
Quoi. Ouais, ouais, ouais. Effectivement.
Et aussi, juste une petite précision, et on va s'arrêter là ensuite parce que ça va manquer de cause quand même. Il faut savoir que en fonction des choix que tu fais, en fonction du fait que tu gagnes des batailles, en fonction du nombre d'unités que tu as tuées, etc. Tu vas gagner la monnaie du jeu, qui est assez spéciale en fait, parce que ce sont des points de renommée. Et ces points de renommée, ils te permettent d'acheter à peu près tout dans le jeu. C'est-à-dire que si tu as une renommée assez élevée, tu peux acheter de la bouffe, tu peux acheter de l'équipement, et tu peux améliorer tes personnages. Donc la renommée, c'est à la fois l'XP du jeu, l'expérience, mais c'est aussi ce qui va te permettre d'acheter ta bouffe,
ouais,
et d'acheter des items. Encore une fois, tu dois pondérer tes choix, quoi. Il y a des choix à faire. Alors, ok, je suis d'accord avec certains, ce ne sont pas des choix à la Mass Effect. On est d'accord. Ce ne sont pas des choix qui vont influencer le destin d'un monde qui, de toute façon, a l'air condamné. On est d'accord. Mais ce sont des choix qui, malgré tout, je trouve, sont importants. Parce que ils ont un impact vis-à-vis de la tension qu'il y a dans la partie. Ils ont un impact vis-à-vis de la vie ou de la mort de tes compagnons, tout simplement. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est quoi le plus important, en fait? Est-ce que le plus important, c'est le fait d'avoir fait un mauvais choix et de voir un personnage auquel tu tenais crever? Ou est-ce que c'est le fait de faire des choix soi-disant super importants et à la fin, on te donne le choix entre rouge, bleu et vert? Ceux qui ont joué à Mass Effect 3 comprendront la référence. Pour terminer, moi j'ai vraiment été bouleversé par ce jeu global. Il y a une ambiance, vraiment c'est un jeu qui a une identité super forte et je suis extrêmement heureux d'avoir financé ce jeu. Je ne regrette pas une seule seconde. Par contre, un reproche. Moi, on m'avait annoncé une trilogie. En terminant le jeu, j'ai quand même l'impression d'avoir un jeu qui a été découpé en trois, et pas vraiment une trilogie. Faut savoir que le jeu, bon, il se termine en 15-20 heures, hein, même peut-être moins si vous choisissez un mode de difficulté genre facile ou normal. C'est clair que ça va se finir beaucoup plus rapidement. Et en fait, c'est au moment où t'as l'impression que le scénario démarre, en fait, que la fin arrive. Et là, t'as une grosse frustration, quoi. Mais j'ai vraiment pas le sentiment d'avoir un jeu qui se suffit à lui-même, comme dans une trilogie, mais vraiment, le premier épisode et attendez la suite, quoi. Et moi, comme vous le savez, l'épisodique, c'est pas mon truc. Voilà.
Ouais, est-ce qu'ils ont annoncé déjà une date ou
non? Il y a pas rien, de date du tout, pour le moment, rien de tout ça. Donc il faudra attendre d'avoir des précisions, sachant que bon, en plus on sait ce qu'il y en a au niveau des dates, hein. Voilà, c'est rarement respecté, n'est-ce pas?
C'est clair.
J'ai pas assez parlé des personnages, je pourrais encore en parler 3 heures du jeu, hein, honnêtement, mais on va s'arrêter là. C'est un jeu qui m'a extrêmement touché, c'est un jeu mature, c'est un jeu avec des personnages que j'ai adoré. C'est un jeu avec des vrais choix, moi je trouve, contrairement à ce qui était dit. Oui, ce ne sont pas des choix qui vont influencer le destin du monde, mais est-ce que pour avoir l'impression de faire des vrais choix, il faut que ce soit forcément ce genre de choix-là? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Et en plus, c'est un jeu qui te force à assumer des choix, et c'est ça qui fait que tu as cette impression un peu oppressante, un peu de fin du monde, etc. Bref. Background excellent, univers excellent, direction artistique excellente, je ne peux que recommander. Par contre, si vous n'aimez pas les jeux linéaires, si vous n'aimez pas les RPG tactiques pur jus, je pense que c'est pas votre truc. Aussi, pour ceux qui n'aiment pas les combats aléatoires, parce qu'il y a quand même une part d'aléatoire dans les placements des unités, etc. Je pense que ça pourrait ne pas vous plaire, notamment les fans de certains RPG tactiques genre Fire Emblem, où tu peux vraiment visualiser qu'est-ce que tu vas avoir en face exactement, etc. Même si tu peux choisir en début de chaque combat où tu vas placer tes unités, etc. Le fait est que comme tu ne sais pas ce que tu vas avoir en face, si tu veux, tu ne peux pas choisir les unités en fonction de ce que tu vas avoir en face. C'est ça qui est un peu embêtant. Et je connais certains fans de RPG tactique qui n'aiment pas ça.
Hey, that's mine. You son of a... Hey, take those headphones off right now!
They call themselves the Guardians of the Galaxy.
What a bunch of a-holes.
Hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling.
On va finir avec un point culture cette semaine. Un truc, mais bon. sans commentaire, ça s'appelle comment, Dwayne?
Donc c'est Les Gardiens de la Galaxie. Donc on a eu le trailer du film qui va sortir au mois d'août. Moi, je vais vous parler du comics qui a débuté en 2013. En tout cas, c'est un run qui a débuté en 2013. Donc fait par donc c'est écrit en tout cas par Brian Michael Bendis. Et donc les dessins sont faits par Mac Niven. Donc je présente déjà Les gardiens, donc c'est en fait une espèce d'équipe de bras cassés, en gros. C'est des hors-la-loi intergalactiques qui vont ensuite se mettre à défendre la Terre, tout simplement, des invasions de la galaxie. Donc là, au niveau des personnages, on a donc Peter Quinn qui est... J'explique, il vient de la planète en fait Spartax, donc il a vécu quand même sur Terre jusqu'à ses 9 ans. Donc c'est comme on l'a dit, un hors-la-loi qui se fait appeler Star-Lord. Donc c'est le fils du roi de la planète Spartax. Enfin, c'est un peu compliqué lorsqu'on l'explique comme ça si on connaît pas l'univers. Donc en tout cas, c'est une des planètes de la galaxie, en tout cas de notre galaxie dans l'univers des Gardiens. On a Drax le Destructeur, donc tout est dans le nom, hein, c'est un
bourrin.
C'est un mercenaire, un gros bourrin. On a Gamora qui est elle la femme la plus dangereuse de toute la galaxie, qui est la fille adoptive de Thanos. Donc Thanos, c'est le gros méchant que vous voyez à la fin de Avengers par exemple dans la scène post-générique. Et on a aussi le duo inséparable, donc Groot qui est un espèce d'arbre donc vivant, c'est seul mot, donc c'est I am Groot, et il a la possibilité donc soit de grandir, de contrôler la faune d'une planète, enfin la flore plutôt d'une planète, et aussi de se régénérer, c'est-à-dire que par exemple donc sa principale faiblesse c'est le feu, mais tant qu'il y a en fait au moins une brindille, tu peux encore, enfin c'est souvent Rocket Raccoon par exemple dans
c'est un putain d'ens quoi en fait ce que tu me décris là, mais
voilà, donc il a la possibilité de repousser ensuite. Et il y a aussi Rocket Raccoon, donc il est un raton laveur modifié génétiquement qui est Allez, je te laisse encaisser l'information. Voilà, donc c'est un raton laveur modifié génétiquement, donc il vient pas de la planète Terre, mais d'une planète lointaine, et donc c'est un aficionados de gros guns. Voilà, c'est aussi l'un des bourrins de la galaxie. Voilà.
Donc c'est lié aux autres univers Marvel, alors.
Voilà, donc c'est là où le lien se fait, c'est-à-dire qu'en fait Iron Man part à un moment donné de la Terre parce qu'il en a marre, il veut se barrer. Donc il est en train de se balader tranquille dans la galaxie quand soudain justement les badounes commencent à attaquer la Terre. Donc à ce moment-là, les gardiens vont arriver pour justement le sauver. Il y a une réunion entre les différents peuples de la galaxie, c'est-à-dire qu'ils se disent en fait que la Terre va dans la décennie, enfin dans les années à venir, pouvoir voyager à travers la galaxie. Et le problème, c'est qu'ils se rendent compte qu'on est trop dangereux. C'est-à-dire qu'il y a par exemple les X-Men, on a donc quelques des gens qui en fait remontent le temps et qui troublent un peu l'espace, enfin le
bah, on a une chier de super-héros au mètre carré quoi.
Voilà, c'est-à-dire que ils commencent à trouver que la Terre est un peu dangereuse. On a Thanos qui a justement été déjà repoussé, en tout cas dans l'univers comics, par les Terriens, ce qui n'est jamais arrivé en fait. On a aussi Galactus qui est donc là un dévoreur de planètes et qui a dévoré un nombre incalculable de planètes et qui a pu être repoussé uniquement par la Terre. Donc ils se disent que la Terre est vraiment trop dangereuse et qu'il va falloir la détruire. Donc pour en revenir à Iron Man, donc lui il s'est déplacé voilà dans la galaxie, rencontre les Avengers, enfin les gardiens de la galaxie qui sont d'ailleurs les un peu considérés comme les Avengers intergalactiques, et donc il y a cette attaque des badounes qui va malheureusement aboutir à la destruction quasi totale de l'Angleterre. Donc c'est-à-dire qu'ils vont réussir à attaquer l'Angleterre. À ce moment-là, donc les gardiens aidés d'Iron Man vont repousser l'invasion. Malheureusement, les gardiens...
Alors rassure-moi, là, t'es pas en train de spoiler tout le scénar, là.
Non, c'est vraiment uniquement le début. Donc malheureusement, voilà, les gardiens vont se faire... ils vont être prisonniers. Et voilà, c'est à peu près à ce moment-là que commence l'histoire. Donc c'est surtout pour en revenir au trailer, c'est vraiment l'ambiance, hein, ce que t'as vu dans le trailer, c'est vraiment...
En gros, c'est ambiance déconne, hein, franchement.
Voilà, c'est ambiance un peu déconne. Après, il y a pas que ça, c'est-à-dire que c'est l'ambiance déconne de base, mais on est après sur un scénario un peu plus poussé dans le fond. Je donne des exemples, par exemple, t'as Iron Man qui est toujours un peu en train de se friter avec Rocket Raccoon, parce que Rocket Raccoon, je l'ai pas dit, mais il a aussi un intellect hyper développé. Donc par exemple, t'as Iron Man qui passe pour un gros bouffon la plupart du temps à côté de Rocket Raccoon, parce qu'il y a t'as Rocket qui lui parle. Par exemple, à un moment, ils sont dans un bar sur une galaxie lointaine, et il dit oui qu'il a besoin de communiquer avec la Terre. Donc Rocket Raccoon lui passe un device qui permet de communiquer avec de manière holographique, et t'as Iron Man, enfin Tony Stark, qui lui fait ah c'est génial, il fait quoi, vous avez pas ça sur Terre? Et puis Rocket Raccoon lui fait tiens regarde, ça c'est un récipient qui peut contenir du liquide. Donc enfin voilà, il se fout tout le temps de sa gueule. Donc moi j'aime bien l'aspect déconne des gardiens. Donc c'était surtout pour dire que le film est totalement, parce que j'ai pas mal de personnes qui disaient oui, enfin sans lire le comics, la plupart du temps les gens disent souvent juste en lisant des forums oui ça respecte pas le comics, et j'ai beaucoup d'amis qui m'ont fait oui oh t'as vu l'aspect un peu déconne, franchement c'est pas en adéquation avec le comics. Après je leur fais mais vous l'avez vraiment lu en fait le truc, parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est vraiment une équipe de mecs qui tu te dis qu'est-ce qu'ils font ensemble quoi, parce que t'as Drax le destructeur qui est vraiment un espèce de gros bourrin, à côté t'as un raccoon, un arbre qui dit que trois mots. Donc c'est vraiment une équipe assez hétéroclite, et tu te dis qu'est-ce qu'ils foutent ensemble. Donc en tout cas c'est un comics qui est assez intéressant. Après je vais pas spoiler toute l'histoire. Effectivement là on a, comme on l'a dit, des enjeux assez énormes, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de quelque chose d'assez, on part vraiment dans la galaxie, donc c'est pas quelque chose de vraiment terre à terre. Et Michael, justement Brian Michael Bendis arrive bien a quand même créé un rapport avec justement cet aspect intergalactique et le ramener quand même à un aspect plus terre à terre pour qu'on comprenne quand même les enjeux, parce que lorsqu'on parle de par exemple Thanos, avec il y a aussi une histoire avec Thanos, le gant de l'infini, enfin il y a toutes ces choses là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu philosophique, on peut pas vraiment le comprendre avec des références références terriennes comme les héros Spider-Man ou autres qui sont assez terre à terre au final. Donc moi je pense que même avec le film, toi tu m'as dit t'as regardé la bande annonce et pour toi ça te donne pas du tout envie, hein.
Ah non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que moi ça me fait rigoler, après je n'y connais rien en comique, donc moi pourquoi pas, mais enfin après je suis pas forcément fan de comique au point d'aller au cinéma, tu vois, enfin je suis pas non plus un gros consommateur de comique, mais là comme ça a l'air sympa, tu vois, un truc à regarder comme ça un après-midi, ça me dirait bien, tu vois. Après aller au cinéma pour ça, bon. Voilà, enfin vu le prix de la place, non.
Enfin, en tout cas, c'était pour voilà, par rapport à l'aspect cinéma en lui-même, il faut bien voir, parce que beaucoup de gens aussi parlent par rapport à DC aussi, enfin qui fait donc les Batman, les Man of Steel, tout ça. Il faut aussi voir que par exemple, quand t'as Iron Man 3 qui est à base, même si moi j'ai pas aimé, hein, qui est à base de blagues et autres gags un peu. Tu l'avais vu Iron Man 3, toi, le tyran?
Non.
Ouais, mais en gros, c'est vraiment.
Je te préviens, à peu près tous les films de comics que tu vas me dire, je ne les aurais pas vus, donc.
Ah, ok, donc toi, ouais, t'es pas du tout, du tout fan. Donc, dans tous les cas, Iron Man 3, c'est vraiment de la blague du début à la fin, et on est sur 1 milliard de bénéfices au box-office, face à Man of Steel, qui est en mode un peu héros torturé, où là, on est à moitié moins. Donc, au final, on va se dire pourquoi changer une équipe qui gagne, et l'aspect un peu humoristique des Guardians, enfin pour ce qu'on en a vu en tout cas dans la première bande annonce donne le même ton. Donc en tout cas
si le comique est dans ce ton là c'est pas un problème, je veux dire ce serait Watchmen, là tu vois, ça me poserait beaucoup plus de problèmes. D'ailleurs,
oui,
le film Watchmen, il m'avait posé un certain nombre de problèmes, on va dire. Mais
après, c'est assez compliqué, hein, Watchmen. De... Même au cinéma, ça faisait partie. En tout cas, moi, quand j'ai entendu, ça faisait partie des trucs que je voyais jamais adaptés au cinéma, quoi. Parce que, franchement, après Zack Snyder, j'ai été assez fan de la façon dont il l'a adapté d'un point de vue visuel. Ensuite, effectivement, au niveau du scénario, il y a pas mal de
la
reproches
scène
à faire.
Pu, franchement.
Ouais.
Alors c'est ouais, clair. Ok, tu mets une musique de Jimi Hendrix derrière, mais c'est pas pour ça que c'est super. Hein. c'est n'importe quoi.
Ouais. Donc en tout cas pour les gardiens, même au niveau du dessin, on est sur quelque chose d'assez. Après bon, c'est vraiment les comics. Enfin, ça fait vraiment partie des main events. Donc c'est là ils mettent vraiment les dessinateurs et les dessinateurs stars, donc c'est normal qu'on ait vraiment quelque chose de qualité. Donc en tout cas, moi c'est un... par contre c'est un comics qui est uniquement en VO, donc moi ce que je vous conseille c'est de le prendre directement chez Marvel en digital, ou sinon vous pouvez aussi le commander. Dans tous les cas, moi c'est quelque chose que je conseille si vous êtes fan par exemple de l'univers cosmique avec Thanos et autres. Mais si vous êtes vraiment pas fan de tout cet univers, Thanos, Gant de l'Infini, enfin, voilà, donc passez votre chemin, parce que c'est vraiment des considérations assez galactiques, on va dire, et qui restent pas...
Si vous êtes fan de sérieux, j'ai l'impression que c'est pas non plus forcément votre cam, quoi.
Pas tant que ça, parce qu'il y a un aspect, comme j'ai dit, il y a un aspect un peu comique, mais...
Oui, mais pour ceux qui ne supportent vraiment pas l'humour, quoi, enfin, c'est...
Ouais, pour ceux qui supportent pas... Bah après, j'ai envie de dire, ceux qui supportent pas l'humour, bah Marvel en lui-même, c'est un peu dur, parce que la plupart, t'as souvent beaucoup d'humour dans les comics, à part lorsqu'on arrive sur des gros events bien sérieux, genre Civil War, par exemple, ou ce type de choses. Mais
c'est
dans
pas
les
Batman, quoi, en gros.
Voilà, dans les séries classiques, t'as pas mal d'humour. Après, oui, X-Men, ça peut rester la plupart du temps assez sérieux... Donc après dans tous les cas, voilà, fan d'humour, si vous êtes fan d'humour et de l'aspect un peu galactique. Enfin, c'est vraiment un indispensable.
Ok, bon, on va s'arrêter là pour cette semaine.
Tout à fait.
Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Bye bye.